Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h pour décortiquer l'actualité de ce mardi. Autour de vous, Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1, Emmanuel Duteil, chef du service économie, et Jimmy Mohamed, notre docteur maison ici à Europe 1.
Bonsoir docteur.
Bonsoir Nathalie, et bonsoir à tous.
Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Emmanuel Duteil et à Aurélie Herbemont.
On après le docteur.
Bah oui, c'est normal. Ça, on fait ses choix, je les assume.
On voit celle qui va assurer ses arrières.
Mais quand même, c'est à vous peut-être Aurélie et Emmanuel que je vais m'adresser en priorité, parce que je sais que c'est un sujet qui vous parle clairement, et Aurélie particulièrement, et peut-être que docteur vous pourrez aussi compléter sur le plan sanitaire, parce que voilà, aujourd'hui on a eu une réponse du conseil scientifique qui ne s'oppose pas à un second tour des municipales fin juin, Aurélie Herbemont, qui ne s'oppose pas, donc c'est un espèce de oui, mais avec un mais très grand, le mais.
Ah, le mais est assez énorme, puisque pour faire un petit résumé du conseil scientifique, c'est vous pouvez essayer, on verra si ça passe.
Voilà. Avec en plus 15 jours avant. 15 jours,
parce que
point,
voilà, le conseil scientifique dit déjà, on ne sait pas vraiment ce que sera l'évolution sanitaire dans les semaines qui viennent. Donc c'est un petit peu compliqué d'avoir une visibilité sur le mois de juin, la fin du mois de juin. De toute façon, ce serait bien de refaire une évaluation sanitaire 15 jours avant la date choisie pour être sûr que ça passe. Sinon, on peut envisager d'à nouveau interrompre le processus électoral. Et puis, la campagne en tant que telle, c'est un petit sujet. Les meetings, en gros, n'y pensez pas. Les tractages et porte-à-porte, si vous ne mettez pas de masque et de visière, on va éviter, faites plutôt du numérique. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites lignes à lire qui font que le gouvernement, maintenant, n'a plus qu'à consulter les partis politiques, consulter les maires pour essayer de trouver quoi faire de ce second tour des municipales qui devient un vrai
sujet. L'exécutif qui récupère la patate chaude, mais normale, mais qui se récupère quand même un sacré morceau,
oui,
avec une décision compliquée à prendre.
Hein. Décision extrêmement compliquée à prendre et qui sera vraiment très politique, puisqu'on le voit bien sur le plan sanitaire, c'est un peu essayer, on verra. Sinon, on verra plus tard. Mais on n'est pas sûr non plus qu'en septembre, ce serait mieux, parce que c'est ça aussi, avec ce virus, on est un petit peu à l'aveugle sur l'évolution, sur les semaines et les mois qui viennent. Donc, il y a beaucoup d'arguments qui plaident pour le faire en juin, parce que beaucoup de maires disent, là, en fait, ce serait bien qu'on en finisse et que ce chapitre soit bouclé. Et ça, Emmanuel Duteil pourra dire aussi à quel point économiquement c'est important.
Bah voilà. Alors Emmanuel et puis le docteur Jimmy Mohamed, si vous voulez nous en dire aussi un mot sur le plan sanitaire. Emmanuel, c'est vrai qu'économiquement c'est compliqué, ça met tout en stand-by.
C'est un énorme problème au pire moment. Pourquoi ? Parce que on sait que quand les maires arrivent sur la fin de leur mandat, c'est pas là où ils vont lancer une grosse dépense. Donc là, pendant plusieurs mois, au pire moment, puisqu'au moment de la crise du confinement, quand déjà l'activité était déjà en partie à l'arrêt, vous n'avez rien qui se lance. Et rien ne pourra se lancer. Quand je dis se lance, c'est-à-dire construire un lycée, construire une école. Alors les maires ne sont pas décisionnaires pour les lycées, mais construire une école, construire la route, la bibliothèque du coin, c'est des chantiers qui font tourner le monde du BTP et le monde du bâtiment. Ils sont très 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 dépendants en France de cette commande publique. Et tant que les nouveaux exécutifs municipaux ne vont pas être installés et ne vont pas être bien installés, rien ne se fera. Partons du principe que c'est la date de fin juin que ça va se faire. Vous croyez qu'un maire il va vous lancer le 12 août la construction de sa bibliothèque? C'est-à-dire que rien ne va se passer, alors que s'ils avaient été mis en place en mars, comme la date devait être prévue, là vous pouviez imaginer que les choses se lancent, les dossiers soient commencés à être regardés. Donc voilà, du côté, je peux vous dire que du point de vue économique, il y a une grosse inquiétude, et eux vraiment, ils veulent que ce soit fin juin, parce que si ça doit être mars de l'année prochaine, c'est la catastrophe qui s'ajoute à la catastrophe.
Et sur le plan sanitaire, pour boucler la boucle, docteur Jimmy Mohamed, on a vu que le compte n'y était pas pour l'instant, les précautions elles sont là, elles sont multiples et variées, qu'est-ce que vous dites vous?
Rappelez-vous que le conseil scientifique a été plutôt sévère jusqu'à présent et a pris d'énormes précautions, et donc on peut se dire que s'il considère que certaines conditions peuvent être remplies pour qu'on puisse assurer la vie démocratique, c'est qu'ils sont peut-être optimistes pour une fois. Alors malheureusement, c'est vrai qu'à l'échelle du temps, un mois c'est très peu, mais à l'échelle du coronavirus, ça semble être une éternité. Donc faisons un point d'ici 15 jours et peut-être, qui sait, on pourra peut-être vraiment assister aux municipales dans des conditions, j'espère, sanitaires acceptables, sans que par la suite on regrette ce geste.
Ah oui, c'est ça, parce que ça a des conséquences sur 6 ans quand même, l'élection municipale. On en
oui,
prend
c'est quand même un mandat qui dure quand même, donc autant choisir bien et dans bonnes conditions.
On va revenir vers vous, docteur Jimmy Mohamed, et on va filer en Corée du Sud avec vous dans un petit instant. Les grandes voix, on se retrouve à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h.
avec le docteur Jimmy Mohamed. Docteur, dites-moi, en Corée du Sud, les salles de sport, elles ont rouvert?
Oui, et certains se demandent ici quand est-ce que celles-ci vont rouvrir. Et en croire une étude coréenne, cela ne risque pas d'arriver de sitôt. Alors, pour remettre en perspective, au 30 avril, la Corée du Sud n'avait connu que 10 000 cas de Covid grâce à une stratégie très agressive de dépistage et d'enquête autour des cas. Et cette étude vient nous le confirmer. Alors, pour votre culture, sachez que la danse latino a son petit succès en Corée et il y a énormément de cours. Et d'ailleurs, au 15 février, des professeurs se sont entraînés durant 4 heures à la salsa, à la danse latine. Ouais. Sur les 27 qui ont participé, 8 ont eu une PCR à Covid positive. Tous étaient parfaitement asymptomatiques le jour de l'entraînement. Au 9 mars, 3 semaines plus tard, 112 cas de coronavirus au sein de 12 centres sportifs. La moitié des contaminations proviennent des professeurs directement aux élèves qui ne se sont vus que 2 fois par semaine pendant des cours de 50 minutes. Aucun contact n'a été rapporté en dehors des cours. Un tiers des contaminations étaient intrafamiliales. Les élèves contaminaient leurs parents à la maison. Et sur les 112 cas, 70% des gens étaient asymptomatiques au moment du prélèvement, contre simplement 30% de symptomatiques. Les enseignements, ils sont multiples. Le premier, c'est qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Et donc, si on dépiste massivement, on trouve des cas. Ouais. Et enfin, les salles de sport sont évidemment des lieux à haut risque de transmission. Il est donc possible qu'on ne les ouvre pas d'ici un petit moment.
Et on les referme, là, en Corée du Sud? La décision a été prise immédiatement ou pas?
Alors, pour le moment, ils sont très vigilants puisque ils ont considéré qu'ils ont fermé les salles et ils ont une stratégie beaucoup plus agressive que la nôtre. Et les personnes sont en quarantaine, une quarantaine beaucoup plus stricte que chez nous.
Je reviens vous voir, docteur, dans un petit instant. Emmanuel Duteil, on a eu ce plan d'aide européen hier annoncé par Emmanuel Macron, Angela Merkel, 500 milliards d'euros face à l'impact du nouveau coronavirus. Un plan d'aide très bien qui s'annonçait merveilleux comme ça pour tenter d'aider nos voisins en difficulté. Bon, ça c'est sur le papier, dans la réalité ça va être plus compliqué.
Oui, c'est vrai qu'hier avec Aurélie on était en joie parce que malgré tout ils avaient réussi à trouver un accord. Bah, déjà c'était quelque chose d'extrêmement impressionnant, mais il ne faut pas oublier qu'en Europe ils ne sont pas que 2, a priori on est encore pour quelque temps 27, et que donc certains ont voulu se rappeler au bon souvenir des deux premiers de la classe en disant, et notamment l'Autriche, non, vous êtes bien gentils les gars, mais nous on n'a pas du tout envie que vous y alliez avec de la dette ou avec ce genre de choses. On veut être consulté et on veut véritablement pouvoir apporter notre jugement, et surtout on ne veut pas payer pour les autres. C'était le message de l'Autriche, mais c'est un message qui va être relayé également par certains pays du Nord qui sont très regardés. Mais ce qui est marrant, c'est que dès hier soir, en France, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui avait beaucoup travaillé, on n'aime pas le personnage, mais je peux vous dire qu'il a mouillé la chemise pour réussir avec son homologue allemand à construire ce plan. Dès hier soir, lui, il avait sa petite liste de courses, Bruno Le Maire. Il a dit, alors moi, ça va me servir.
C'est vrai.
Et je trouve que le mot qu'il a utilisé, lui qui parle si bien français, il ne peut pas s'être trompé, il a dit, il va falloir que nous rénovions l'hôpital. Ça va servir à rénover l'hôpital. Quand vous rénovez votre maison, c'est que ce n'est pas bon signe quand même. C'est que vraiment, il faut à peu près tout changer sauf les murs. Donc, ça envoie aussi un signal qu'il y a un état d'urgence. Donc, ça devait servir à ça. Ça peut servir à ça. Ça peut servir également à financer le plan de soutien à l'automobile, qui va être annoncé d'ici une quinzaine de jours, parce que c'est le cataclysme là aussi dans cette filière.
Et l'aéronautique aussi dans la foulée.
Le plan aéronautique. Donc c'est les trois visions de Bruno Le Maire à être financées. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Sauf si je dis une ânerie, c'est le mois prochain, en juin, qu'il y a un Conseil européen sur lequel ils vont devoir réussir à se mettre
d'accord.
Ce serait vraiment politiquement un drame en Allemagne et en France
si jamais on ne devait pas
réussir à mettre ça en place, parce que là, ça a quand même généré une forme d'espoir.
Bien sûr. Là où on n'a pas réussi à se mettre d'accord, Aurélie Herbemont, c'est entre le gouvernement et ce qu'on appelle désormais les frondeurs. En tout cas, ça y est, ils ont rompu, clairement.
Ils sont partis.
9e groupe donc à l'Assemblée, c'est fait. Et il va falloir s'habituer. Est-ce que les frondeurs, d'ailleurs, les frondeurs sont les mêmes que ceux qu'on avait au PS à l'époque? On y reviendra après. Ce groupe-là, ça passe mal quand même dans les rangs de la majorité.
Alors, ça passe mal et en même temps, certains se disent, ça aurait pu être bien pire parce qu'ils sont 17. Je peux vous dire que ces dernières heures, ces derniers jours, il y a eu des missions, débranchage des députés qui étaient tentés de partir. D'ailleurs, ça a plutôt fonctionné puisqu'ils finissent à 17. Et donc, la majorité a officiellement, le groupe En Marche a perdu la majorité absolue. Ils sont 288 au lieu de 289. Ça aurait pu être
bien pire,
c'est très symbolique. Symboliquement, c'est clair que le message, le signal est quand même pas bon. Emmanuel Macron parle d'unité nationale, il veut du consensus. Et même dans son propre camp, certains s'en vont. ils auraient pu être plus nombreux, donc certains se disent bon, après tout, c'était vraiment les plus rebelles. Les
avec une ou deux figures quand même, un Aurélien Taché par exemple, avec il a toujours été frondeur, mais il est emblématique Aurélien Taché.
C'était quelqu'un, un des tout premiers marcheurs, effectivement Aurélien Taché, député du Val d'Oise, très en pointe sur les questions de laïcité, et parfois en marge d'ailleurs de ce que peut dire et faire le gouvernement sur ces questions-là. Vous avez aussi une autre personne emblématique, Cédric Villani.
Bien sûr.
Mathématicien, médaille Fields, mais attention, Cédric Villani, il avait déjà été exclu dans Marche pour sa candidature dissidente. Donc en fait, dans ce groupe, vous en avez, alors j'ai pas le chiffre en tête exactement, mais certains qui étaient déjà partis ou qui s'étaient déjà fait exclure. Donc ils sont 17.
Bon, alors après, il faudra voir. Écologie, démocratie et solidarité, hein, c'est les trois mots pour le nom de ce groupe. Est-ce qu'ils vont servir peut-être à Emmanuel Macron au final? On verra dans quelques instants avec vous. Docteur Jimmy Mohamed, on va vous retrouver dans un instant, bien sûr. On se parle des délais de contagion en cas de Covid. Il y a peut-être des éléments qui ont évolué là-dessus. À tout de suite avec les grandes voix.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h.
Alors, docteur Jimmy Mohamed, décidément, ce virus, il nous réserve des surprises systématiquement. Hein. On en sait un peu plus désormais sur le délai de contagion en cas de Covid, c'est-à-dire?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez une PCR positive à Covid, ça veut dire qu'on détecte de l'ARN du Covid et pas forcément la présence du virus qui est viable. Au décours d'une infection, le patient peut continuer à excréter du matériel génétique, c'est-à-dire des petits morceaux du virus détruit dont le corps continue de se débarrasser. On a donc certains patients qui restent positifs à la PCR durant plus de 6 semaines après le contact avec le virus. Et donc la difficulté, c'est de savoir quand est-ce que nous ne sommes plus contagieux.
C'est ça.
Et donc le critère de non-contagion et donc forcément de guérison dans une étude médicale sérieuse qu'on appelle le JAMA est défini par la disparition de la fièvre et des signes respiratoires comme la toux ou la gêne respiratoire et un délai supérieur à 10 jours après le début des symptômes. Néanmoins, il faut rappeler que près de 50% des gens sont asymptomatiques et que nous pouvons donc contaminer en plus des gens durant la période d'incubation, 2 à 4 jours avant les premiers signes cliniques de la maladie. On radote un peu, mais c'est une preuve supplémentaire qu'il faut absolument appliquer les gestes barrières de manière extrêmement rigoureuse.
Ouais, et puis dans un instant, vous allez nous dire aussi qu'on a détecté d'autres traces ailleurs et de quoi, encore une fois, nous troubler, je dois dire. Emmanuel Dutheil, l'industrie qui propose un dispositif pour accompagner la sortie du chômage partiel. Bah oui, parce qu'on le savait, hein, il y a une deadline.
Oui, effectivement, la deadline a été fixée au 1er juin et on attend les dispositions du ministère du Travail sur le chômage partiel, puisqu'on doit savoir dans quel secteur le chômage partiel va être maintenu et sous quelle forme, puisque ce n'est pas certain que les patrons pourront être remboursés à 100% des dépenses qu'ils font pour payer les salariés. Et justement, du côté de l'industrie, on dit, nous, cette levée du chômage partiel, ça va être un drame parce que ça va provoquer des faillites en masse. Et du coup, ils proposent un dispositif alternatif. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le patronat et la plupart des syndicats de l'industrie qui le proposent, puisque c'est donc lui-même qui est le patronat de l'industrie, plus au minimum FO et la CFDT, et a priori la CGC devrait suivre aussi, donc on a quand même des gros syndicats qui suivent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils proposent au gouvernement que quand l'activité de l'entreprise baisse et n'arrive pas à reprendre, on puisse baisser de 40% le temps de travail des collaborateurs. Baisser le temps de travail, ça veut dire baisser le salaire. Et donc ce qu'ils disent, c'est qu'il faut que l'État prennent en charge cette somme, ou en tout cas une énorme partie de cette somme, pour que la perte de revenus du collaborateur soit la plus limitée possible. Et derrière, les patrons disent, si on obtient ça, on s'engage à ne pas licencier pendant la totalité de la durée de l'accord. Donc ce serait vraiment quelque chose de tripartite, effort des salariés, effort de l'État et effort des entreprises. Du côté du ministère du Travail, on dit qu'on prend acte de cette proposition, mais que pour le moment, ils sont plutôt focus sur la sortie du chômage partiel. Et là, Muriel Pénicaud doit annoncer d'un jour à l'autre les nouveaux dispositifs. Mais c'est une idée qui, en tout cas, fait sens. Et ce qui est intéressant, mais ce qui va être extrêmement compliqué pour beaucoup de salariés, c'est qu'on voit bien que là, il va y avoir une pression dans beaucoup d'entreprises pour réduire le temps de travail et réduire
les
salaires. Donc ça montre bien à quel point, dans ce secteur de l'industrie, mais ce n'est pas le seul, le patronat et les syndicats voient que la situation va être Évidemment. Je suis désolé parce que Roger serait là et dirait mais tu nous fatigues avec tes nouvelles totalement déprimantes.
Mais dramatique.
Promis, demain, je vais essayer de trouver de bonnes idées qui seront très positives.
Ça fait quand même 12 millions de salariés qui sont à l'heure actuelle en chômage partiel, hein, pour rappeler un chiffre
Tiens, ça fait un bout de temps que Muriel Pénicaud ne nous a pas donné un chiffre nouveau, mais effectivement, le dernier qu'on avait, c'était 12,1 millions.
12,1 millions. Docteur Jimmy Mohamed, je reviens vous voir parce que vous allez vous aussi nous annoncer une nouvelle qui nous déroute: encore des traces de Covid détectées dans des selles qui seraient, attention, hein, actif et donc potentiellement contaminant. Mais c'est possible, ça ?
Eh oui, c'est pas très glamour en plus. Alors, on savait qu'il était possible de retrouver des traces du coronavirus dans des liquides biologiques, comme l'urine, le sperme, les sécrétions lacrymales ou même les selles, mais on ne savait pas si ces particules pouvaient être contagieuses. Une étude chinoise nous en dit un peu plus. Il semblerait que le Covid détecté dans les selles de ces patients soit actif et pourrait être un mode de contamination et de transmission de la maladie. Alors, évidemment, il faut être prudent, mais cette conclusion fait écho à ce qu'il s'est passé en 2003 pendant l'épidémie de SRAS à Hong Kong. 330 résidents d'une villa privée ont été infectés. L'enquête sur la structure du bâtiment a montré que les canalisations d'égouts défectueuses ont entraîné une aérosolisation des matières fécales contaminées qui seraient la source de l'infection. Encore une fois, j'espère que là vous êtes convaincus qu'il faut absolument se laver les mains et respecter, je le répète, les gestes barrières.
Oui, bah oui, évidemment.
Donc, c'est bien, on est vachement rassurés.
Voilà. Bon, merci beaucoup les grandes voix. J'ai un petit doute sur le timing. Il nous reste une minute. Juste Aurélie Herbemont, je voulais revenir vers vous parce que, après toutes ces bonnes nouvelles, non mais c'est vrai, docteur Jimmy Mohamed, Emmanuel Duteil, non, je me demandais, est-ce que sur les frondeurs, parce qu'on en parle désormais, donc écologie, démocratie, solidarité, voilà comment s'appelle ce groupe dissident, est-ce que ça pourrait pas s'avérer utile finalement ce groupe pour Emmanuel Macron sur la longueur? Est-ce que ça pourrait pas créer certains avantages?
Alors, certains vous disent dans la majorité, c'est bien gentil leur groupe, mais nous, on n'est pas du tout écolo, pas du tout démocrate et pas du tout pour la solidarité. C'est sûr qu'ils pointent des sujets qui sont peut-être moins pointés à certains moments, encore que ces derniers temps, le gouvernement parle bien d'un plan de relance qui sera teinté d'écologie,
c'est vrai.
Parce qu'on sait, on en parlait avec Emmanuel, et donc les chiffres absolument cataclysmiques et pas du tout sympathiques qui s'annoncent.
Le dit, hein. Tout doit être vert.
C'est ce qu'ils ont commencé avec Air France, par exemple.
Avec Air France et également avec Renault. Par exemple, chez Renault, ils disent très clairement pas un euro pour les véhicules thermiques. Il faut que le plan de Renault soit basé sur la croissance.
Et donc, dans la majorité et au gouvernement, on vous dit, c'est de toute façon, on veut y aller dans cette direction-là. Donc, ils ont un problème de timing. De toute façon, on veut faire ces choses-là. Donc voilà, bon, il faut une petite piqûre de
vouloir,
rappel.
Il va falloir qu'il le fasse quand même à un moment.
Et ben voilà, bon, on verra, parce que c'est sûr qu'il va falloir le faire.
Bon, on va suivre de près ce qui se passe dans ce groupe, en tout cas avec vous. Merci beaucoup, les grandes voix. Merci docteur Jimmy Mohamed, Emmanuel Duteil, Aurélien Herbemont. Salut à vous, à demain. Europe 1.